Calade.
Ma radio.
So bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women reaching out to me. My mojo working.
Got my mojo working.
But it just don't work on you. Lay it on me one time. A gypsy woman giving me advice. I got a gypsy woman giving me advice. I got a whole lot of tricks keeping her all night. Got my mojo working.
Got my mojo working.
Got my mojo working, but it just don't work on you. Got my mojo working. Got my mojo working, but it just don't work on you.
Allez, Dédé, à toi.
Vous avez reconnu, j'imagine, notre ami Muddy Waters. Donc, Sylvie va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure.
Ouais.
Donc, on va... pour faire un petit tour. Donc Sylvie, que vous connaissez déjà, Sylvie Nabeuf, pianiste.
Oui, hein, entre autres.
On peut le dire. Hein. Voilà.
Et Dédé.
Et Dédé.
André Dutronc.
Voilà.
Animateur. Et amateur de jazz, entre autres, mais de blues. Alors.
Surtout de blues. Et à ce sujet-là, ce qu'il faut qu'on vous dise, surtout, il y a un truc qui est important. Muddy Waters, ça nous fait un peu penser à Chicago, tout ça. Ça tombe bien. Parce que le 7 juin, figurez-vous qu'à Belleville, au Cuvage, où... habituellement, on fait les concerts de jazz, d'ailleurs. Et ben, le 7 juin, à 20h30, nous faisons venir une blues woman, Liz Manville.
De Chicago.
Voilà. Donc, même le chien est au courant. Donc, ça tombe bien. Ça va très bien. C'est le direct. C'est normal. Donc, ben, on espère que vous allez venir plus nombreux que ce soir.
Super concert, c'est prévu.
Voilà. Liz Manville, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu sur scène. Je vous garantis que c'est une énergie incroyable. Elle a une énergie, c'est une femme qui a vraiment du battant.
Ah bah franchement,
elle a Elle a un répertoire qui est vraiment...
Bah, en fait, elle écrit, elle compose, elle a même son label.
Voilà, voilà.
Et donc, bon, elle est un peu la filleule de Buddy Guy à Chicago. Voilà. Chaque fois qu'elle sort un CD, voilà, son huitième, elle va bientôt sortir le neuvième. Et en fait, chaque fois, elle fait ses sorties de machin chez Buddy Guy. Donc, il y a un super club, le Legend, là, qu'il faut fréquenter si vous allez là-bas. Le pied.
Elle sera accompagnée, donc elle a un super guitariste italien qu'on connaît déjà, nous, bien sûr.
Dario, oui.
Dario, c'est vraiment un bon guitariste. Peut-être qu'au clavier, ce sera peut-être, je ne sais pas, ce sera Sylvie.
À la basse, c'est un Lyonnais, avec Manu aussi, le batteur, qui est aussi un Lyonnais, Manu voilà. Léger, et puis donc Élisée Sangaré.
Voilà, bassiste, donc n'oubliez pas cette date, le 7 juin.
20h30. C'est le week-end de Pentecôte, alors bon. Ouais.
Bah, on n'a pas beaucoup de choix, hein, c'est toujours le même problème. Quoi. Voilà, donc on va revenir un petit peu donc, à ce qui nous intéresse, donc à savoir cette présentation du blues. Donc on s'est arrêté la dernière fois, juste un peu avant les années 60, on est reparti vraiment à l'origine du blues. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de partir justement de ces années 60 à aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est une période qui est absolument riche, incroyablement riche, on va dire, puisque cette musique, on peut dire qu'elle n'existait pas avant, qu'elle a été inventée, qu'elle est sortie... donc,
pas de nulle part, mais de bien.
Pas de nulle part, mais de cette base de misère, mais donc ça nous a fait éclore une musicalité incroyable. Et puis après, donc, est arrivée l'électrification avec tout ce qu'on a connu des années 60. Je te laisse démarrer, Sylvie.
Oui, alors pour revenir au morceau qu'on a écouté, donc, c'était en fait à l'American Folk Festival, c'était en 63. Donc Muddy Waters au chant, alors il y avait un parallèle, Memphis Slim au piano, Sonny Boy Williamson à l'harmonica et Willie Dixon à la contrebasse. Alors c'est vraiment les meilleurs de l'époque, ensemble, franchement. Ah oui, c'est bien ça. Alors, le blues, donc, qui est né dans le sud des États-Unis à la fin du 19e siècle, a connu dans les années 60 une transformation profonde, tant sur le plan musical que sur sa diffusion mondiale. Alors, la reconnaissance internationale et l'expansion a commencé au début des années 60. Le blues, donc, connaît une reconnaissance grandissante aux États-Unis, notamment avec la suppression de la séparation raciale, donc des hit parades en 63, marquant la fin d'une ère de ségrégation musicale. Le mouvement qui s'appelle le Blues Revival est né dans les milieux intellectuels américains et explose dans les campus universitaires. Il valorise le retour du blues rural du delta du Mississippi, dont les thèmes d'esclavage et de ségrégation trouvent un écho auprès d'une jeunesse blanche contestataire. C'est vrai qu'à l'époque, ça commençait bien. Parallèlement, les musiciens noirs américains s'orientent vers de nouveaux genres, alors plutôt comme le rhythm and blues, la soul, et pendant que les musiciens blancs américains et européens s'approprient et popularisent le style de blues les plus anciens. En Europe et surtout au Royaume-Uni se développe le British Blues Boom, donc des groupes et musiciens comme John Mayall, Fleetwood Mac, les Rolling Stones aussi, puisqu'ils ont commencé en fait en écoutant les fameux vinyles que faisait venir Mick Jagger depuis les États-Unis. Donc ils ont connu Muddy Waters, ils ont refait des reprises blues pendant quelques années avant de créer leurs propres morceaux. Il y avait Eric Clapton aussi, donc avec John Mayall, et Jimmy Page, qui réinterprète donc le blues et l'intègre à la pop, au rock et à la musique psychédélique.
Oui, donc je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ces histoires-là. Dans les années 60, en fait, c'était interdit de passer à la radio. Cette musique, on n'entendait pas, un petit peu avant 60. Donc, c'était en fait des bateaux qui étaient stationnés. Ils avaient trouvé des solutions, les radios, pour diffuser cette musique. Il y a des bateaux qui étaient stationnés pas très loin de la Hollande. Alors, en France, c'était encore pas là, mais ça passait par la Hollande. Donc, l'Angleterre, ils diffusaient, en fait, sur ce bateau qui passait de l'autre côté, donc en Hollande, en Belgique, et puis après en France, quoi. Parce que, en fait, à l'époque, ça passait pas...
D'où l'expression, les radios pirates.
Bah oui, déjà. Parce que ça passait pas du tout en France, en fait. Hein, le blues, ça existait pas, quoi.
D'ailleurs, Radio Calade a été une radio pirate avant d'être une vraie radio, enfin vraie, sur la bande FM, en fait. Oui.
Parce que oui, c'est la première radio, je crois, hein, Mathieu, c'est ça. C'était la première radio diffusés.
Ouais. Oui, il y en a plusieurs. Il y a Radio Jacasse.
On ne va pas trop partir là-dessus, mais voilà. Donc, oui, donc Sylvie, tu as parlé des Rolling Stones, évidemment, surtout Mick Jagger. Mick Jagger est complètement passionné du blues. En fait, il a fait sa musique après, mais lui son idole, c'était Muddy Waters.
Keith Richards aussi, parce que du coup, il lui prêtait les vinyles qu'il avait achetés. Bah, évidemment, il était d'une famille plus fortunée, tandis que voilà. Keith Richards, c'était plutôt les quartiers pauvres. Mm. Donc, ils sont allés dans la même école, en fait. Hein. Ils se sont rencontrés à cette époque, dans les années 60. Et voilà. Donc, ils ont créé leur propre groupe. D'ailleurs, comme je vous ai raconté la dernière fois, quand Brian Jones, bon, qui est décédé après, cherchait des concerts à faire, et il y a un gars qui lui dit, mais oui, on veut bien vous prendre, mais comment vous appelez? La panique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? D'un seul coup, il a dit, les Rolling Stones, une chanson de Muddy Waters.
Rolling Stones, c'est une chanson de Muddy Waters, voilà.
Voilà, pour la petite histoire.
Ah, c'est
à
pour
répéter.
La petite histoire. Tu continues ?
Oui, voilà. Bah oui. Alors, les tournées et puis la mondialisation du blues. Alors, dès 1949, les artistes comme Led Belly et Bill Big Bronzy tournent en Europe, ouvrant la voie à de nombreux bluesmen américains donc, qui s'y produisent et parfois s'y installent. À partir de 1962, l'American Folk Blues Festival, dont on a entendu un extrait là, permet à la crème des bluesmen américains de se produire en Europe, influençant donc une génération de musiciens européens, contribuant à l'internationalisation du genre. Alors ce mouvement donne naissance à de nouvelles formes de blues, de blues rock par contre, comme Canet Heat, Paul Butterfield, le blues électrique de Chicago et les scènes blues locales dans de nombreux pays. Donc il y a une diversification et des influences qui sont croisées. Donc ces années-là, voilà la structuration de la scène blues française, avec Henri Salvador, entre autres, et Colette Magny, qui adaptent le blues en français, ou non, avec des titres. D'ailleurs, on va en écouter un tout de suite de Colette Magny. Je ne sais pas si vous la connaissiez. C'était une femme qui a été en fait révélée en 63, en fait, au Petit Conservatoire de Mireille. Et donc, moi, j'écoutais ça quand j'étais gamine. Alors, avec ma sœur, c'était la seule émission qu'on regardait. Mais de toute façon, il n'y a qu'une chaîne, donc déjà. Et en fait, mais elle est extraordinaire. Elle était extraordinaire, cette femme. Une voix. Puis bon, elle était secrétaire bilingue. Elle faisait des traductions.
D'accord.
Et puis, elle s'y est mise à chanter. Elle avait 36 ans. Alors bon. D'ailleurs, si vous allez sur Radio Calade, il y a une émission que j'ai dû faire il y a à peu près un an et demi. Donc, sur elle, qui dure une heure, donc y a tout son historique et tout ça. On écoute le morceau, donc c'est lequel? Bassin Blues, Bassin Street Blues.
Voilà.
Won't you come along with me down the Mississippi? We'll take the boat to the land of dreams, steam down the river, dance in your limbs. Bassin Street is the street when dark and light folks meet. In your limbs, land of dreams, you'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes siree, when time is free, dear to me, where I can lose my Basin Street blues.
I said Basin Street.
Uh-huh.
Basin Street.
Well, what about?
That's the place where everybody meets. In your limbs and a dream. Now tell me what I say. They call it Basin Street. Basin Street is the street where dark and light folks meet. In your limbs, land of dreams, you'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes siree, when time is free, dear to me, where I can lose my Basin Street.
Et voilà, hein, Colette Magny. Ouais. C'est vrai qu'on l'a plus connu par sa chanson La Mélocotone, qui était assez courte. C'était vraiment un assez grand succès, mais par contre, elle a fait des albums de blues. Puis après, elle avait pas mal de chansons contestataires.
Alors, juste pour suivre, ce que je voulais dire là-dessus, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais on entend encore un peu la folie d'après-guerre. C'est la musique hein, qui voilà. Et quand même, il y a déjà la guitare blues qu'on entend bien. En fait, ça résume un peu tout, ce morceau. Il est pour ça qu'on a choisi entre deux tout à l'heure. Puis j'ai dit à Sylvie, écoute, celui-là, moi, je trouve qu'il va parfaitement bien parce qu'il représente un peu les deux. Quoi, voilà. On est mi-jazz, mi-blues, là. On entend bien la guitare, on entend bien les choses. Quoi, voilà. Et faut pas... C'était en quelle année, ça, Sylvie ?
63,
c'est incroyable de jouer comme ça, quand même. Hein. C'était rudement bien, hein.
Alors, en fait, j'ai cité aussi Henri Salvador. On n'était pas franchement d'accord parce qu'il le considère plus comme un jazzman.
Évidemment.
Mais, bon, mais n'empêche que, d'abord, il a enregistré des rocks. Son premier rock en 1956, c'était le premier rock français qui s'appelait d'ailleurs Rock'n'Roll Mops. Alors, je vous conseille d'aller le retrouver sur YouTube parce qu'il y a des paroles absolument extraordinaires. Et en fait, il a enregistré, non pas sous le nom d'Henri Salvador, mais en recording, ce qui veut dire en enregistrement. Et en fait, c'est Boris Vian qui lui a donné ce surnom. C'est assez marrant, en fait, l'idée. Bon. Et du coup, ben, je voulais le blues du dentiste. Mais comme il n'aimait pas...
Non,
il n'était pas d'accord pour le choix du chanteur. Donc du coup, j'ai trouvé...
Voilà, j'adore Salvador. Attention.
Voilà, j'ai trouvé la version, donc ben, quand même, il l'a écrit avec Boris Vian aussi.
Bien sûr.
Comment il s'appelle ? De Paul Persson, puisque c'était quand même un bluesman français, qu'il a interprété avec Tiki Ogado, et c'était dans un taratata, dans les années 95, je crois, quelque chose comme ça. On écoute.
Bien mal aux dents, oh là là. Sors de chez moi et je pense en pleurant. J'ai un homme durant. Oh. Les dentistes sont éteints et qui pourra m'arranger? De gens, et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard à saint mec tout blanc, porté par deux masters. Oh, je lève déjà pour foutre le camp. L'infirmier crie au suivant. Je me trouve debout devant le dentiste. Je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles. Avant même que j'ai pu faire ouf, m'a déjà fait sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont tournés dans leur tombe. Oh là là.
Voilà qui plombe. Plus belle dent, celle que j'ai par devant. Oh, oh,
me crie la gueule au chalumeau et me refile un grand verre d'eau.
payer votre dette. Je venais d'être payé la veille.
Ce salaud fauche toute mon oseille et me refile 50 balais.
Et il ajoute en rigolant. Je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Et moi, je gueule ce soir.
Qu'elle va dire, ma poupée, ça ratiche. Non, ça fout mal, ça fout mal. Ouais, non, mais arrêtez tout, arrêtez tout. Arrêtez tout. Éveille-toi.
Voilà, là, on sentait bien la dérision, quoi, tout l'humour de ce titre.
D'ailleurs, la première version donc, qu'il a sortie, Henri Salvador, ouais, c'était avec l'orchestre de Quincy Jones.
Oui.
Carrément.
Oui. Ah, ouais.
C'était bon aussi, hein.
Ah, ouais, non, mais c'était, mais très, bon, bien. C'était très bien.
Paul Person, c'est plus blues.
Ah, c'est plus blues, ouais, c'est pour ça que je l'ai voulu.
On fait des concessions.
Par contre, Delgado, je ne sais pas si vous entendez, il a une sacrée voix, hein. Moi, je ne me souvenais pas qu'il avait une voix comme ça. Donc. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, là, parce que j'avais une anecdote là-dessus, mais ce n'est pas grave, ça va m'en venir.
Ça va m'en venir. J'ai vos dents, comme la bête.
Ouais. pour ceux qui étaient là la dernière fois, là, quand j'ai parlé des 12 mesures, par exemple, ben là, on les entendait bien, quoi. Là, c'était bien carré, tout ça, c'est vraiment le blues 12 mesures, pile poil, quoi. C'est pour ça que j'aime bien, voilà.
Oui, ben voilà.
Donc, il existe une émergence de groupes pop inspirés par le blues, Alan Jack, Civilization, Les Variations. Vous vous souvenez de ça, le groupe, Les Variations, un groupe français? Triangle, tu te souviens?
Triangle.
Ils sont venus à Belleville. Je les ai vus à Belleville. Ouais. C'est vieux, on était tout jeunes. Voilà. Mais c'est, voilà, ça, là, on est devenus sur des groupes français. Quoi, qui,
ils étaient à Belleville.
Hein?
S'ils étaient à Belleville, c'est qu'ils sont
ah,
bien.
Ah, mais c'est, Belleville-sur-Saône, hein, parce que Belleville,
bah, vous avez compris.
Ils sont quand même souvent à Paris.
Non, autrement, c'est Eddie Mitchell. Hein.
Ouais, voilà. Donc, dans les années 70 et 80, le blues s'infuse dans le rock, la pop, la soul et le funk. Le blues contemporain est marqué par une grande diversité, le blues traditionnel, blues rock, blues fusion, blues acoustique, etc. Et donne naissance à d'autres formes de blues aux sons différents. Le West Coast Blues, des artistes comme T-Bone Walker. T-Bone Walker, là, c'est, encore une fois, c'est un peu jazzy aussi, mais là, franchement, c'est quelque chose de... Ce gars-là, c'était incroyable, il avait une dextérité à la guitare, enfin. Influence un style plus sophistiqué, d'ailleurs, intégrant les éléments jazz et swing. Le Swamp Blues, développé en Louisiane, ce style lent et hypnotique, donc Slim Harpo, conserve des racines acoustiques tout en adoptant l'harmonica amplifiée. Déjà là, on avait l'harmonica amplifiée, ça a déjà changé beaucoup de choses par rapport à la première émission. Les festivals dédiés, Chicago Blues Festival, Cognac Passion, Blues en scène, Blues Montréal, témoignage de la vitalité du genre à l'échelle mondiale. Alors là, on ne l'a pas marqué, mais... Dans les années 70, par exemple, 65, 68, je ne sais plus, il y avait déjà des blues en France, des festivals pardon, en France, auxquels j'ai participé, notamment Aix-en-Provence et tout ça.
Mmh. Biote, ah, ça oui, aussi. Oui.
Biote, mmh. Tout ça, oui, bien sûr. Hein. Donc, il y avait déjà plein de festivals qui sont... À l'époque, on partait... enfin, bref.
Bah, le premier, ça a quand même été Cahors.
On avait deux sous.
Ça a été le premier, Cahors.
Oui, bien sûr. Et après, il y a eu plein. Et puis, celui à côté de Nîmes, où je suis allé, où j'ai rencontré John Mayall. Non, Bagnols-sur-Cèze.
Ah bah oui, j'y suis allé.
C'est dommage, ils l'ont arrêté ce festival parce que c'était un peu dans le ville et ça faisait trop de bruit. Les gens se sont plaints, ils ont été obligés de l'arrêter. Mais il y a venu vraiment des grandes pointures. La preuve, il y a vu John Mayall. Donc
mais tu y étais en plus.
Ah bah oui,
donc il y a forcément des grandes pointures.
C'est notre ami... qui travaillait avec moi, comment elle s'appelle, et qui me l'avait présenté.
Oui, Nathalie.
Oui, Nathalie. Je te présente John Mayall. Je voulais lui demander s'il parlait français. Je lui ai demandé s'il parlait anglais. Je me suis barré. Je me suis barré, il m'a regardé partir, et il a dû se dire, celui-là, il est fou, quoi. Je me suis trompé. J'étais tellement ému, j'ai demandé s'il parlait anglais. Je dis, c'est pas possible. Je me suis barré. Enfin, bref, voilà, c'est une anecdote. Voilà. Donc, c'était, voilà. De nombreux artistes internationaux, donc Keb Mo, Suzanne Tedeschi, Ben Harper, Eric Bibb, etc., perpétuent le renouvellement du blues. Donc là, on est beaucoup plus récent avec Eric Bibb, bien sûr. Hein. Tandis que des musiciens issus de tous les continents s'approprient ses codes et ses émotions. Le blues est aujourd'hui reconnu comme un patrimoine universel, symbole de résilience et d'expression personnelle, qui continue d'influencer la musique moderne et de toucher un public mondial.
C'est bien vrai. Alors pour revenir aux Français, là, parce que du coup, on n'a pas parlé des artistes comme Patrick Verbeek, Benoît Blueboy, voilà. Jean-Jacques Milteau, donc à l'harmonica, Bill Doren, Paul Persson, sans oublier Alain Bashung, qui avait des traces de blues importantes. Donc eux, ils popularisent le blues en France, parce qu'ils écrivent aussi en français. Pas toujours, mais souvent.
Bien sûr.
Et donc l'installation de musiciens américains en France renforce donc la structuration. Donc Memphis Slim a habité la France pendant des années, Champion Jack Dupri aussi pareil, et Nina Simone, bien qu'associée au jazz et influençant la scène blues par ses performances en France. Il y a Ruth Brown aussi, une artiste américaine qui a été récompensée plus tard, qui se produit beaucoup en Europe. Alors en parlant de Nina Simone, on va écouter un morceau de Bessie Smith, Nobody Knows When You're Up and Down. C'est un succès, enfin c'est le succès principal de Bessie Smith, donc repris par Nina Simone. Allez.
Well, once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care. Taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Couldn't find me no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you. Up on your feet again. Here they all come, they say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. No.
Vraiment, hein? C'est Nina Simone, c'est une voix. Alors, c'est plutôt jazz, elle, bien sûr. Elle fait plutôt du jazz, mais là, sur ce morceau, on retrouve toutes les structures du blues, en fait, hein, c'est clair. C'était une bluesman. Juste avant que Sylvie recommence un petit peu, les anecdotes sur les festivals, effectivement, j'étais tout jeune, mais je me souviens très, très bien d'avoir vu des artistes déjà, notamment Johnny Winter. Je crois que c'était autour des 3 heures du matin parce que c'était ininterrompu. Hein. C'était 3 jours ininterrompus. C'était jour et nuit qu'il y avait des artistes. Donc je crois qu'il arrive à 3h30 du matin, mais on était complètement fous, quoi, parce que c'était. Johnny Winter à la guitare, en plus il y avait son frère Edgar au piano. C'était fabuleux, on était tout gamin, mais c'était, je me souviens d'avoir vécu ça. C'était un mini Woodstock en fait, on était un peu. Et puis Woodstock, c'est bien parce que donc il fallait se déplacer à l'époque. Évidemment, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien, on se déplaçait en stop. Je me déplaçais en stop avec mes collègues là. Et j'avais rendez-vous à Avignon, à la gare d'Avignon, avec quelqu'un qui est pas loin de moi là, que je connaissais encore pas trop, mais que je connaissais un petit peu déjà. Donc on s'était donné rendez-vous pour partir en vacances en Espagne, je ne sais plus où. Enfin, si, c'est en Espagne. Et qu'est-ce que je vois en arrivant à la gare, parce que malgré que j'étais en stop, j'étais un petit peu en avance, je vois le film Woodstock. Donc, je rentre dans le cinéma. Pas dormi depuis 2-3 jours, mais je suis un petit peu endormi.
Dommage.
Et j'ai raté le train. Elle était dedans. Donc, à l'époque, il n'y a pas de téléphone comme maintenant. Pour se retrouver, ce n'était pas simple. Notre petite anecdote de festival.
Voilà. La faute à Woodstock.
C'était la vie, c'était comme ça, mais c'était super marrant, parce qu'on se prenait pas la tête, hein. C'était comme ça, quoi, voilà.
Finalement, tu l'as retrouvé.
Je l'ai quand même retrouvé. Bon, mais ça n'a pas été simple, il a fallu, parce qu'à l'époque, il a fallu enlever, on envoyait comment, des télégrammes, ouais, pour se retrouver.
Oh là, ah oui, c'est vrai, ouais, les télégrammes.
Il n'y avait rien. Oh, pas lourd, ce boulot. Voilà, c'était ça. Ça fait partie de la vie un peu du blues. C'est ça la vie. Hein, c'est comme ça, quoi. Voilà.
Eh oui. Alors, on va faire quand même l'évolution musicale.
Ah oui, les artistes de blues. Musicale, c'est plus intéressant.
Voilà, des années 60, donc aux États-Unis. Alors, les artistes de blues des années 60 ont profondément fait évoluer leur musique, tant sur le plan du style que de l'instrumentation, hein, en adaptant à leur époque et surtout en intégrant de nouvelles influences. Le passage donc à l'électrification et au blues urbain, comme dans les années 60, voit l'essor du Chicago blues électrique, caractérisé par l'utilisation intensive de la guitare et de l'harmonica amplifiée, de la basse électrique, de la batterie, et le style urbain né de la migration, donc des musiciens noirs vers les grandes villes du Nord, où il y avait du travail, comme Détroit, comme Chicago, il y avait des grosses usines de métallurgie, de choses comme ça, bon, qui n'existent plus malheureusement maintenant. Donc en fait, ça donne un son très puissant qui était adapté aux clubs bruyants et un public élargi. Alors l'amplification permettait aux artistes d'explorer de nouveaux effets sonores, alors distorsion, feedback, ça doit parler aux guitaristes s'il y en a.
Bien sûr.
Bon, c'est vrai que c'est pas le cas, parce que j'ai pas, le piano ne peut pas faire de distorsion. Allons donc d'allonger les solos et d'imposer la guitare comme l'instrument central du blues moderne, comme Muddy Waters et Howlin' Wolf, mais qui atteint son apogée avec des sonorités plus agressives, en fait, et des distorsions expérimentales. Alors, des artistes comme Buddy Guy, Junior Wells, Mazik Sam, Otis Rush incarnent le West Side Blues de Chicago, avec des guitares donc suramplifiées, des solos expressifs et une énergie nouvelle. Alors, certains artistes intègrent le saxophone, la section rythmique étoffée, des arrangements plus sophistiqués rapprochant le blues de la soul et du rhythm and blues.
Alors, on peut juste s'arrêter. C'est terrible quand tu me parles de sax. En fait, je reviens un petit peu à moi là, c'est peut-être pas très important, mais peu importe, si c'est quand même un peu ça la musique. En fait, un jour, j'avais un cousin là, qui avait un électrophone à la maison. On avait tous les petits électrophones avec les 45 tours.
Les Tepaz.
Voilà, pour les citer, voilà. Je vous garantis, c'est complètement idiot, c'est bête, mais là, il passait tout le temps un morceau de Sheila, à ses débuts. Mais là, il y avait un morceau d'un accompagnement sax, un morceau de sax qui, tout de suite, m'a heurté mon oreille. J'ai dit, tant, mais ça, c'est vachement bien. Et en fait, ce morceau de sax, il était blues déjà, c'était tout un français blues. Et je me souviens, c'est un peu comme ça, en fait, que j'ai découvert ces phrases blues, en fait. Je connaissais encore pas John Mayall et tout ça à l'époque, hein, c'était avant. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est vachement bien, quoi.
Et pourtant, c'était Sheila. Qui a fait une bonne carrière, quand même.
Non, mais bon, peu importe, c'était pas du blues. Ce qui est important, c'est que quand ils ont intégré les instruments différents, ça a changé beaucoup de choses, en fait. Hein.
C'est clair. Ouais.
C'est l'évolution, en fait. Ouais, hein. L'évolution, voilà.
Donc on repart sur l'évolution du blues, mais alors en dehors de Chicago en fait. Hein. Donc le blues des années 60 s'est transformé en dehors de Chicago, donc à travers des hybridations régionales et des influences culturelles locales marquées par l'électrification, l'intégration de nouveaux genres et la montée des scènes internationales. Alors à Détroit, on trouve du blues raw ou au proto-funk, il faut déjà le prononcer, Donc Johnny Hooker, qui incarne un blues minimaliste et hypnotique, avec des riffs répétitifs, donc comme le fameux boom boom, préfigurant donc le funk, son style talking blues et ses rythmiques asymétriques, donc comme dans sa chanson No Shoes, fusionnent tradition rurale et énergie urbaine. En parallèle, donc, il y a Motown, le fameux label, qui émerge parallèlement, influençant le blues local vers des arrangements plus sophistiqués, bien que distincts du R&B, comme on le dit maintenant, qui est produit par le label. Le Texas, alors avec la renaissance électrique et le blues rock, Lightning Hopkins, qui modernise le blues acoustique texan en l'électrifiant, tandis que T-Bone Walker, bien qu'actif dès les années 40 quand même, inspire une génération de guitaristes par son mélange de jazz and blues. Austin devient un foyer blues rock dans les années 70 et les basses sont posées dès les années 60 avec des artistes comme Freddie King, entre autres, dont les instrumentaux énergiques, alors Hideaway, que vous connaissez peut-être comme morceau quand même, qui a été joué par je ne sais combien.
Si on passait, tout le monde le connaît.
Voilà, qui influence donc le rock britannique. Par contre, à Memphis, entre tradition et modernité, donc B.B. King, il développe un blues urbain sophistiqué, mêlant donc guitare électrique avec sa fameuse guitare Lucille, et un phrasé vocal style gospel, comme The Thrill Is Gone, qui n'est pas d'ailleurs de lui, on pense qu'il l'a écrit, mais non, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a fait connaître, et qu'on dit toujours Thrill Is Gone, oui, c'est B.B. King, non, je ne sais plus le nom d'ailleurs de...
Ouais, moi, tu me l'apprends, parce que pour moi, c'était Baby Kiss.
Ah non. D'ailleurs, c'est marrant, parce que souvent, tu as des chansons qui ont marqué un artiste, et puis du coup, on dit, oh, c'est lui, mais non, c'est pas lui.
Vous connaissez l'histoire de Lucille, sa guitare à Baby King, non?
Allez, raconte.
Vous savez pas? En fait, il y a eu un incendie. C'est dans les Juke Joint.
Juke Joint.
Voilà, c'est les bistrots. Ils appellent ça comme ça là-bas. Donc, il y avait de la musique, et puis les gens, ça buvait beaucoup. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui arrive? Il y a peut-être une nana ou je ne sais pas qui est passée, deux, trois gars qui se sont battus. Et à l'époque, pour se chauffer, il y avait simplement un gros phare au milieu de la pièce. Et ils ont bousculé le phare, ça a tout pris feu. Et lui, il a voulu sauver sa guitare, il s'est presque brûlé pour sauver sa guitare. Et sa guitare, en fait, il y avait une nana. Il a sauvé une nana qui s'appelait Lucille. Aussi avec
donc guitare. Il a appelé ses guitares Lucille.
Voilà. C'était une bagarre en fait, un truc comme ça.
Ça manque pas.
Toutes ses guitares se sont appelées Lucille après.
Oui.
Mais il a toujours gardé sa vraie guitare, il l'a gardée pratiquement tout.
Mais c'est vrai que sa façon de jouer ou de chanter, jamais quand il jouait, il ne chantait pas. Mais quand il chantait, il ne jouait pas. Et d'ailleurs, un jour, il a été invité par, je crois que c'est le groupe U2, qui ont voulu, donc il faisait un concert, ils voulaient l'inviter sur scène. Tout l'après-midi, pendant la répétition, il y avait un des guitaristes de YouTube qui voulait à tout prix qu'il fasse des accords. Mais non, je ne joue pas des accords, je fais des notes. Ouais. Mais il n'a jamais réussi à lui faire changer d'avis. C'est comme ça, c'est sa façon de jouer. Quand on l'entend, sa guitare, il chante.
C'était incroyable de l'entendre jouer. Je me souviens, j'arrive à Vienne, je suis arrivé un peu... On était un peu en retard, je sais plus, enfin on n'était pas installé encore, mais sans le voir, je savais que c'était lui, parce qu'il avait une force de jeu. Il y a que lui qui jouait comme ça, quoi. C'était B.B. King, il imposait son jeu en fait. Il était vraiment sur scène, c'était lui, c'était personne d'autre.
D'ailleurs, j'étais même devant la scène. On se connaissait pas à l'époque.
Hein. Non, pas vraiment. Non.
Alors pour repartir de Memphis, on va en Californie. Donc le blues de l'intégration, le psychédélisme. Alors T-Bone Walker, Charles Brown, qui popularise un blues jazzéifié avec des sections de cuivre et des harmonies complexes, donc comme Stormy Monday. La seule chanson que je chante. Bref.
C'est bien.
Et Canon Heat, le groupe californien, donc qui fusionne le blues traditionnel et le rock psychédélique. On the Road Again, alors ça c'était leur
vous
morceau.
Vous vous souvenez bien de On the Road Again, Canon Heat, c'est le...
Je crois que c'est la seule qu'on peut garder. C'est d'ailleurs malheureux parce qu'ils ont fait des choses sympas.
Ah, ils ont fait des choses super.
Symbolisant donc la contre-culture des années 60. Alors, les principaux artistes du blues qui ont émergé dans les années 60, donc qui marquent un tournant dans l'histoire du blues avec l'émergence donc, de nouveaux artistes, des groupes qui ont modernisé le genre et contribué à sa diffusion internationale, grâce au blues électrique donc, de Chicago et du British Blue Boom. Alors, on va voir les principaux artistes et groupes emblématiques de cette période. Alors, les artistes américains, Buddy Guy, évidemment, guitariste et chanteur explosif qui incarne le renouveau du Chicago Blues et influence profondément le rock moderne. Son jeu énergique et expressif a inspiré Jimi Hendrix, Eric Clapton et Stevie Ray Vaughan. Junior Wells aussi, qui était harmoniciste et chanteur, qui collabore étroitement avec Buddy Guy. Donc ils ont fait un duo qui a marqué durablement la scène blues de Chicago dans les années 60. Alors on va écouter un morceau donc, qu'ils ont enregistré ensemble qui s'appelle « That's Alright » et qui date de 98.
Told me, baby, once upon a time, you said if I'm yours, you would surely be mine. That's all right. I know you love another man, but that's all. Every night and then I'm alone. Who loved that? When I was loving a little girl, you just wouldn't treat me right. Now I got myself another woman, you just want bus and fire, bus online. I know you got yourself another man, but that's alright. Every night I'm alone. Who's loving? Hey, brother, how you feel over there?
When I was loving you, Junior, you just didn't understand. Now I got me another woman, you could have yourself a man.
Hey, don't do that, don't do that, don't do that, brother, don't do that. Don't never call me no woman, I don't never do that. Hey, 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 that's all right.
Cause every now and then I wonder
who's loving you tonight. Yeah. Can I say something?
Say it.
Who's been here since I've been gone? A little old black boy, goddamn it, with a dummy on. Mama, can I make a thing? Every night till I'm alone, who's loving you tonight? Hit me.
Thank you.
Ouais. Yeah. Donc, Buddy Guy, c'est quelque chose. Là, on retrouve bien toutes les structures dont on parlait sur la première émission. Et on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de notes, mais elles sont placées pile poil. Et puis il y a cette expression qui n'appartient qu'au blues, quoi. Là, on le sent bien. Et c'est, voilà,
c'est les tripes.
Voilà. Puis, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu sur scène, je ne sais pas, notamment, moi, je l'ai vu à Vienne, plusieurs fois, je crois. Quand il descendait avec sa guitare, il descendait
les gradins
là. Pff, il venait dans la foule, c'était quelque chose, quoi, avec sa guitare à poil, c'était quelque chose. Ouais, moi, t'as une histoire à nous raconter, toi, Sylvie. Oui, ton sport.
Ouais, en fait, en 2015, on est parti un mois à Chicago avec des copains, drivé par un gars qu'on connaissait, qui est de Chicago aussi, un bluesman. Et puis, donc, on est allé faire une jam chez Buddy Guy. Et donc, moi, je voulais qu'il me dédicasse quelque chose. Donc, il vendait des affiches. Quand même, je l'ai payé quand même $25 l'affiche. Hein. Mais elle est certifiée, donc il m'a signé mon truc. Et puis donc, on nous appelle pour faire la jam. Donc on va jouer. Je reste un peu plus longtemps parce qu'il y avait un papy, un harmoniciste, qui est arrivé avec ses charentaises et puis son déambulateur. Mais bon, il voulait à tout prix que je l'accompagne. Donc je reste sur scène pour jouer avec lui. Donc 5 morceaux, il fait. Et puis, je dis, mince, mon affiche. Alors, je me précipite parce que je pensais qu'il allait partir. Buddy Guy, il ne reste pas tout le temps dans son club. Et puis, j'arrive vers lui et je lui dis en anglais, je lui dis, I'm sorry, I don't want to abuse of you. Ce qui veut dire, en fait, je ne veux pas vous violer. Parce que c'est un faux français, abuser des gens. En fait, moi, je voulais lui dire, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Donc, quand je me suis aperçue que je venais de lui dire ça, il me regardait avec des yeux, comme ça. Mais quand je me suis aperçue de ma bêtise, j'ai vite rectifié en lui disant, I don't want to make you waste your time. Donc, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Alors là, il avait quand même 79 ans. Bon. Ben, il en a 89 maintenant, hein, mais ça n'empêchait pas d'être avec des super nanas à couder au bar. Hein. Mais c'était drôle. Mais je suis arrivée, j'ai piqué un fou rire. Ben, c'est vrai que c'est quand même le genre de truc qu'on ne dit pas comme ça. Enfin bon, quand je suis retournée voir mes potes, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Quand je leur ai raconté, t'as pas fait ça ? Eh ben si.
ça reste un des derniers grands musiciens d'avant. Quoi.
C'est un des derniers, en fait. Ouais. Hein.
Enfin,
ils
sont
tous passés l'arme à gauche. Ils doivent faire un sacré orchestre là-haut. Hein,
je pense. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Ok.
Bon, allez, on continue quand même. J'en étais à Magic Sam.
Ouais, c'est bien.
Donc, c'est une figure majeure aussi du Chicago Blues qui est reconnue pour son style de guitare vif et sa voix expressive. Son influence reste forte malgré une carrière écourtée par sa mort prématurée en 69. Alors, il y avait aussi Little Milton, qui était un guitariste, chanteur, compositeur, qui connaît bien du succès dans les années 60, avec une soul imprégnée de blues, qui marque la transition vers des styles plus modernes. Ensuite, J.B. Lenoir, oui, auteur de Alabama Blues, qu'on écoutera d'ailleurs, qui se distingue par ses chansons engagées et son adaptation du blues aux thèmes sociaux des années 60. Alors, tu as une anecdote là, sur la mort de John Mayall.
Oui.
De John Mayall,
J.B. Lenoir, c'était vraiment le maître à John Mayall, en fait, parce qu'il appréciait au-delà de tout ça. C'était quelqu'un, d'ailleurs, qu'on retrouvait dans John Mayall, c'est quelqu'un qui était incroyablement gentil. Il parlait toujours avec douceur. Il avait d'ailleurs, apparemment, dans ses textes et tout, c'est toujours de la douceur et tout. Malheureusement, ce monsieur, qui était vraiment un bluesman absolument phénoménal, il jouait tout le temps en plus, voilà. Il a eu un accident de voiture, et bah, le fait qu'il soit black, ils ont d'abord enlevé la voiture, ils l'ont posé au bord de la route, et puis ils sont venus le chercher quand ils ont eu le temps. Donc il est resté très longtemps déjà sur le bord de la route, à l'hôpital sans trop s'en occuper, donc il est mort. Donc ça a été la grande tristesse de John Mayall. Il l'explique plusieurs fois dans plusieurs chansons. C'est, voilà,
oui,
c'est,
il a fait d'ailleurs une chanson spéciale pour lui.
C'est vrai que cette anecdote nous explique bien le problème qu'il y avait notamment aux États-Unis, mais qui a un peu pas qu'aux États-Unis, malheureusement. Voilà.
Ouais. Bon, alors on passe à un autre chanteur, là, c'est Paul Butterfly Blues Band.
Je croyais qu'on écoutait un morceau de J.B. Lenoir, là. Non, c'est pas...
Ah bah oui, pardon, on écoute Alabama Blues, en fait.
Voilà. Je suis désolée.
I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me.
You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down their frame. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up for my mother, and the police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometime. Think about how my poor brother lost his life. Got my people behind a barbed wire fence. Now you're trying to take my freedom away from me.
Oui.
Voilà.
Jimmy Lenoir.
Jimmy Lenoir.
Alabama Blues.
Voilà. Donc on va parler des autres figures notables. Entre autres parce qu'il y en a tellement, mais enfin bon, on va déjà dire.
Oui, certaines, oui.
Hein, voilà. Donc, Elvin Bishop, Michael Bunfield, membre de Paul Bunfield Blues Band.
Oui.
On l'a connu, évidemment. Janis Joplin, qui puise dans le blues pour façonner son style unique. Hot Tuna, groupe issu de Jefferson Airplane, axé sur un blues traditionnel. Et alors là, quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur, Lucky Patterson. Alors, Lucky Patterson, il est né en 64, il s'inscrit pleinement dans cette évolution. Enfant prodige repéré par Willie Dixon, il développe un style unique et transcende le blues traditionnel en y intégrant des éléments de soul, de gospel, de jazz, de funk. Sa virtuosité à la guitare, mais pas que, parce qu'il fait aussi de l'orgue, il fait du clavier, il fait du piano, ainsi que son énergie scénique font de lui une figure majeure du blues contemporain dès les années 90. Lucky Patterson a été omniprésent sur les scènes françaises, se produisant régulièrement dans les clubs emblématiques New Morning, Sunset, Duc des Lombards, et lors des festivals majeurs comme Jazz à Marcillac, à Vienne, parce que je l'ai vu, où il était considéré comme un habitué et une véritable légende. Sa proximité avec le public français et sa capacité de créer une ambiance festive est accessible et ont largement contribué à populariser le blues auprès d'un large public hexagonal. Lucky Patterson a profondément marqué le paysage de blues en France, à la fois comme artiste virtuose, ambassadeur du blues moderne et figure fédératrice sur la scène hexagonale. Dans le contexte d'une mondialisation du blues depuis les années 60, il a su incarner la continuité et l'innovation permettant au genre de rester vivant et pertinent auprès des nouvelles générations françaises, particulièrement.
Oui, 56 ans.
Particularité de Lucky. Alors ça, c'est extraordinaire. Il est décédé de maladie à 56 ans, 51 ans de scène.
Parce qu'il a commencé très jeune.
En fait, et son père avait un club. Son père était musicien. Enfin, toute sa famille était musicien. Et à 5 ans, il a commencé, à 4 ans, il a commencé à jouer. À 7 ans, il a fait sa première télé à 7 ans. C'est incroyable, ce type. Et donc, et après, il y a des musiciens qui l'ont découvert et qui l'ont pris sur l'oreille. Il est parti. Mais je peux vous dire, moi, j'ai plusieurs CD à la maison de l'équipe. Je crois que j'en ai au moins 5 aussi, je ne sais plus, de l'équipe Peterson. Mais c'était génial. Alors, il y a des fois, c'était carrément jazzy, même, hein, ça dépend. Enfin, il était très, très, très musical. Il était absolument génial. Et puis, sur scène, c'est vrai que. Il avait une influence. Hein. Il emmenait les gens avec lui, quoi. Mmh. Voilà. C'était. Je suis désolé, mais c'était un génie, quoi, musical. Et aussi bien au piano qu'à la guitare.
Quand même. Hein.
Bon. Ah oui. Je te laisse.
Oui, bah, on parle des artistes britanniques.
Ah ben bah, oui.
Le British Blues Boom. Oui. Alors les premiers, évidemment, les Rolling Stones, hein, inspirés des maîtres du blues américain, qui popularisent donc le genre auprès d'un large public et contribuent à sa reconnaissance mondiale. Après, ben, John Mayall The Blues Breaker, véritable pépinière donc, de talent, comme Eric Clapton, Peter Green, Mike Taylor. Le groupe est central dans la diffusion du blues en Grande-Bretagne. Alors, on va écouter un morceau donc, de ce fameux John Mayall et Blues Breaker, qui s'appelle Double Crossing.
Voilà, oui. juste un petit peu. Vas-y. Donc, John Mayall, en fait, moi je l'ai découvert, je crois que c'était en 64, en fait, il y a un collègue... ses parents, ils avaient un magasin, ils vendaient des machines à laver ou je sais plus quoi là. Et puis, à l'époque, les 45 tours, ça se faisait dans le même magasin. Et donc, il me dit, viens, monte chez moi, là, je vais te faire écouter un truc. J'ai découvert ça, enfin, ça m'a fasciné tout de suite. Et après, donc, j'ai essayé de rechercher tout ça sur lui. C'était quelqu'un qui était pénible à vivre, très dur parce qu'il exigeait énormément de ses musiciens. D'ailleurs, avec Clapton, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une année. Hein. Forcément, à un moment donné, ça pouvait pas aller. Clapton, il n'est pas venu aux répétitions une fois ou deux, donc John Mayall, c'était impensable, donc ça s'est mal passé. Après, bon, il y avait Peter Green, il y avait Mick Taylor. Ben, Mick Taylor, lui, c'est facile. Il a quitté Mick Taylor quand Brian Jones est décédé, donc c'est lui qui a remplacé Brian Jones au Stone. Donc, évidemment,
Et puis Peter Green est parti pour créer Fleetwood Mac.
Fleetwood Mac, Clapton a créé Cream, donc voilà. Après
c'était
tous des musiciens. De toute façon, John Mayall, il a eu que des grands musiciens. Je sais pas, il est décédé l'année dernière au mois de juillet, mais il a fait une carrière absolument phénoménale. Il est resté toujours fidèle à son blues, mais toujours fidèle. Il fallait que ce soit très musical, il fallait que ce soit très bien fait. Quoi. Voilà, donc on va écouter un morceau de John Mayall.
Voilà, Double Crossing. We'll be right back. mets pas les poils.
Alors là, vous avez entendu, c'était Eric Clapton qui jouait la guitare sur ce morceau. Donc ça, c'était, je crois que c'était en 1966 ou 67, je me souviens plus bien. Je peux vous dire que là, les Américains commençaient à se dire, mais c'est qui celui-là ? Parce qu'en fait, il fait du blues meilleur que nous, quoi. Parce que c'était quelque chose, quoi. Enfin, Clapton, à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on entendait, quand on lisait surtout les magazines, on voyait sur les murs de Londres, c'était marqué Clapton est Dieu. C'était le Dieu, quoi. À l'époque, ils le considéraient comme ça, quoi. C'était génial, hein, parce que ça n'existait pas avant, quoi. C'était l'innovation. Okay, c'était le blues british.
Puis les deux ensemble, il y a d'ailleurs, si vous allez sur YouTube, il y a un morceau qui s'appelle Bernard Jenkins, qui est en fait une réponse piano John Mayall et guitare Clapton. Alors chaque fois, ils changent, c'est un qui fait solo et l'autre qui accompagne, ainsi de suite. Et en fait, ça a été pris par un ingé son qui avait envie de faire un essai de prise de son. Mais en fait, c'était comme une jam, en fait. Mais ce morceau, moi, je pourrais l'écouter 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Alors, franchement, il est super.
Ça correspondait évidemment à l'époque de contestation. Lui, John Mayall, il était là-bas pendant un temps. Il était à Hyde Park. Il s'est foutu avec un frigo dans un arbre. Il vivait dans un arbre. Il voulait pas. Enfin, il contestait, je ne sais plus quoi. Enfin, bref, c'était comme ça.
Ben oui,
c'était ça. Donc, il n'y avait pas. Alors, on va essayer de continuer.
Oui, il y avait Fleetwood.
Il y avait Fleetwood Mac, évidemment.
Fleetwood Mac,
je crois que beaucoup de gens s'en souviennent, évidemment. Formé autour de Peter Green.
Petit détail, Peter Green qui a écrit, entre autres, la fameuse chanson qui est hyper connue, qui a été reprise par Santana. Donc, Black Magic Woman.
Black Magic Woman,
et
d'accord.
C'est lui qui l'a créé.
Ah, d'accord.
Il a
écrit.
Ça, je ne savais pas.
D'accord.
Ah, oui.
Ah, bah, tu vois. Alors, il y a eu les Tanya Rafter aussi. Je pense que là, ça nous rapproche un petit peu. Ça existe. Ils existent toujours, évidemment. Alvin Lee, malheureusement, n'est plus en vie, mais bon. Donc, le groupe se distingue par sa virtuosité et sa prestation remarquée à Woodstock, fusionnée en blues et rock. Ils ont fait surtout un morceau, Ten Year After. Ils jouaient avec une virtuosité.
C'était incroyable.
C'est incroyable, hein. La vitesse. Enfin, voilà, c'est quelque chose.
Un peu des guitares héros, en fait.
Ah oui, quand même. Le Chicago Blues, le blues rock américain et le British Blues Boom sont les principaux courants portés par ces artistes qui ont assuré la pérennité et le rayonnement du blues jusqu'à aujourd'hui.
Alors je continue.
Oui,
avec la fusion des autres genres et ouverture internationale, alors les musiciens noirs américains qui s'orientent sur des genres émergents comme le rhythm and blues, la soul, intégrant donc des éléments de gospel, de jazz, de swing et abordant des thèmes sociaux et politiques, qui évolue vers des sujets plus urbains et sociaux, tandis que les arrangements s'enrichissent de sections de cuivre, de riffs répétitifs inspirés du rhythm and blues, la structure harmonique classique 1-4-5.
Voilà.
Je te laisse préciser.
Ah bah le 1-4-5, c'est vraiment c'est
la fondamentale,
la carte
et la quinte.
C'est la structure du blues. Ouais.
Voilà. Hein. Qui persiste donc, et les instrumentations gagnent en complexité. Alors le blues des années 60 qui irrigue directement la soul, par exemple avec Ray Charles, Otis Redding, et le funk avec James Brown. On connaît bien son sex machine, avec un accent groove et une expression donc vocale. Et il devient la pierre angulaire du rock progressif et du hard rock, comme Led Zeppelin et Jimi Hendrix. Alors, on va écouter un titre blues phare de Jimi Hendrix qui s'appelle Red House.
Je vous dirai son disque. Thank you.
Eh ben, il ne nous a pas gratifié d'un solo de 10 minutes. Hein.
Ouais, ouais, parce que normalement, il fait, je crois que le morceau il fait 8 minutes original. Mais donc, bah, ça, c'est le Jimi Hendrix Experience. Donc, c'est un trio. Ils ne sont que trois hein, à l'époque quand ils ont fait ça. En fait, Jimi Hendrix, il jouait. C'était, il accompagnait Little Richard. Et Little Richard avait marre qu'il fasse des phrases derrière lui. Il dit, c'est quoi ça? Toi, tu ne veux pas jouer de la guitare? Qu'est-ce que tu veux? En fait, il l'a foutu à la porte. Il dit, tu ne seras jamais un guitariste. Alors, Jimi Hendrix était très en colère, il est parti, tout ça. Et puis, il est arrivé un mec à New York qui passait par là, je ne sais pas, plus pour quelle raison, qui l'a ramené dans sa valise en France. Bah, ce mec-là, il s'appelle Johnny Hallyday. En fait, c'est lui qui l'a ramené en France, Jimi Hendrix. Et après, Jimi Hendrix est passé de la France en Angleterre. Il n'a pas voulu rester trop à Paris, il est passé à Londres. Mais en fait, il a vraiment démarré sa carrière quand il est venu en Europe, parce qu'aux États-Unis, ça ne marchait pas trop. Mais après, il est retourné un peu à New York pour des raisons diverses et variées. Et là, un soir, dans une soirée festive, il a rencontré une nana qui était la nana de Keith Richards, des Stones, avec lequel il a passé la nuit dans une chambre rouge. Donc, le morceau.
Avec la fille.
Donc, le morceau de Red House, voilà. Après, il a sorti ce morceau-là. Voilà, c'est des anecdotes. Voilà.
Ben oui. Alors, parallèlement, donc, on en était à la fusion des autres genres. Les musiciens blancs, américains et britanniques donc, s'approprient le blues et fusionnent avec le rock naissant qui devient donc le blues rock. Il y a aussi donc, le rock et le psychédélisme avec les Rolling Stones, Cream, Fleetwood Mac qui intègrent ces structures blues traditionnelles avec du rock. Les tempos accélérés, des improvisations étendues, des influences psychédéliques comme les Yardbirds, John Mayall, on en a parlé, qui popularisent donc cette hybridation, tandis que les guitaristes comme Clapton ou Jeff Beck repoussent les limites techniques de l'instrument. Alors, on a parlé beaucoup... Oui, pardon.
Juste une petite... les Yardbirds, on parle des Yardbirds, en fait. Les Yardbirds, il y avait Eric Clapton. Et là, John Mayall a sorti Clapton des Yardbirds. Pour jouer avec lui.
Pour jouer avec lui.
Et puis un an et demi après, ils sont franchis.
Puis après, ils sont virés.
C'était un peu tout des comme ça. Voilà.
En fait, c'est toujours des pièces rapportées. C'est voilà, marrant d'ailleurs. Alors, on a beaucoup parlé des hommes, hein, mais on va parler aussi des femmes. Parce que la contribution des Blues Women, inscrites au Blues Hall of Fame, sont majeures et ont profondément marqué donc, l'histoire du blues. Alors, il y a eu dans les années 20, Ma Rainey, il y a eu Bessie Smith, on a écouté la fameuse chanson interprétée par Nina Simone. Il y avait Mamie Smith aussi, il y a beaucoup de Smith. Memphis Minnie, C.P. Wallace, Odetta, alors qui est plus âgée, enfin qui est arrivée plus tard, et qui faisait beaucoup blues, mais aussi pas mal de rhythm and blues, la soul et tout ça. Et puis alors actuellement, Bonnie Raitt qui continue.
Bonnie Raitt, voilà.
C'est ma Bonnie Raitt, ça sa pote.
Alors. C'est ma chouchou, voilà.
Mais qui est une guitariste donc, de slide. Hein.
Elle fait beaucoup de slide.
Elle fait beaucoup de slide. Et franchement, toutes ces artistes, elles ont ouvert la voie à la reconnaissance des femmes dans le blues et introduit des innovations musicales en guitare, en écriture, en interprétation et influencé de nombreux acteurs majeurs du blues, du rock et de la soul. Et aussi limité par la reconnaissance, la mémoire et les droits des artistes du blues. Alors leur inscription au Blues Hall of Fame consacre ses contributions essentielles à la culture musicale américaine et mondiale. Et il existe encore beaucoup d'autres récompenses, pardon, comme les Grammy Awards, les Blues Fame locaux comme celui de Chicago, entre autres la fameuse Lismanville que vous verrez si vous venez le 7 chez nous. En 2013, qui a été donc récompensé pour l'ensemble de ses productions, en même temps que, par exemple, Coco Taylor ou Deitra Farr, bien connu donc, dans le milieu du blues de Chicago. Alors, il est important de noter que le Chicago Blues Hall of Fame est donc distinct du Blues Hall of Fame national qui est créé par la Blues Foundation. Alors, on va écouter un fameux morceau de cette fameuse Bonnie Raitt, la reine du slide, donc, un morceau funky qui s'appelle Love Letters.
pas mal la guitariste là. Hein,
ça vaut... La chanteuse, puisque c'est la même.
La chanteuse, guitariste et tout, pas mal. Hein. Voilà, Bonnie Raitt, c'est pour ça que je l'aime bien. Parce que... Alors c'est plus près de nous. Parce que d'abord, elle est toujours en vie. Elle fait toujours beaucoup de festivals avec Clapton aux États-Unis, là, tous les ans. Elle suit toujours Clapton, elle aime bien et ils se suivent beaucoup. Voilà.
Oui, mais d'ailleurs, elle ne vient jamais en France. Elle ne vient jamais en Europe.
Bah oui, bah ouais. Bah c'est mon grand.
Je suis abonné à sa newsletter et c'est vrai qu'elle ne fait que des concerts. Alors, chaque fois qu'il y a des concerts, c'est toujours aux États-Unis. Donc, on peut y aller.
On va parler de l'ancrage du blues à Paris et en France.
Par exemple.
Donc, des artistes comme Cisco Arzate, folk blues, Chris Lancry, harmoniciste et guitariste, participent à la structuration d'une scène blues française dans les années 70. Paris devient un foyer culturel du blues, accueillant des musiciens américains venus s'installer durablement comme Memphis Slim, qui se produit régulièrement dans les clubs emblématiques de la capitale, Caveau, La Huchette, Petit Journal Montparnasse. Dans les années 80 et 90, une véritable scène bluesman in France se développe, portée par des artistes comme Patrick Verbeek, Paul Persson, Benoît Boubeuil, Bill Doren, Jean-Jacques Milteau ou Fred Chapelier. Fred Chapelier, c'est beaucoup plus près, puisque aujourd'hui, c'est la scène française de blues. Hein. Fred Chapelier, il est venu à Saint-Aunay il n'y a pas longtemps. Il va peut-être revenir bientôt, même. Je ne sais pas. Fred Chapelier, il a accompagné Johnny pendant de nombreuses années.
Dutronc. Il a fait partie des Vieilles Canailles.
Oui, mais Vieilles Canailles, mais avant, il a accompagné Johnny.
Ah, mais Fred, non ?
Oui, si, si.
Ah ben,
En tout cas, avec les Vieilles Canailles, c'est sûr.
Oui, c'est sûr.
Ces musiciens adaptent le blues et la culture française, mêlant texte en français, guitare, slide et harmonica, tout en créant un patrimoine local reconnu. On écoute un morceau instrumental de Fred Chapelier, Racing Wake the Cops,
faire la course avec les flics. Bon. Alors, ce morceau, c'est un morceau enregistré donc, qui sort d'un CD, mais moi, je l'ai vu à l'automne à Châlons. Avec les trois cuivres, alors le saxo, une trompette, et puis l'autre c'était quoi ? En plus c'est les musiciens qui étaient aux Vieilles Canailles, il y avait Pierre D'Angelo et tout ça. Et alors le morceau là, il fait un espèce de solo, fait avec les trompettes. Ah mais c'est une tuerie, saxo, machin. Enfin bon, moi je suis dingue. We'll be right back. sacré guitariste.
Alors, là, pour ceux qui étaient là au tout début, la première, on voit bien un peu l'évolution là, de la guitare. Là, hein, ça change tout. Enfin, là, Fred Chapelier, on est aujourd'hui. Quoi. En fait, on voit bien toute l'évolution. C'est quelqu'un donc, qu'on connaît quand même assez bien.
Bien, oui.
Et que, si vous avez l'occasion, il passe très souvent dans le coin. Je crois qu'il est de Nancy ou quelque chose comme ça.
Saint-Didier en Champagne.
Ouais. Ah oui, Saint-Didier en Champagne, ouais, c'est ça, voilà. Plutôt.
Pas l'adresse aussi.
Non, pas l'adresse. Non, enfin, c'est pour dire qu'il est, voilà, il est dans le coin. Voilà.
Oui, franchement.
Alors, l'essor des festivals et de la communauté blues en France, année 1980 aujourd'hui. La France devient l'un des pays où le blues est le plus célébré, avec de nombreux festivals de renommée internationale. Cahors Blues Festival, fondé en 82, le plus ancien du pays. Cognac Blues, Passion, Blues en scène, Grazy Blues. Grazy Blues avec Alain qu'on connaît bien, etc. Ces événements accueillent des artistes du monde entier et contribuent à la vitalité du blues en France. Le blues s'installe durablement dans le paysage musical français grâce à la reconnaissance médiatique sous le bag, Blues Magazine, et continue d'évoluer, porté par un réseau dynamique de festivals et d'émergence d'associations comme France Blues, qui promue le genre à l'international. L'augmentation des émissions de radio spécialisées et la création de collectifs des radios blues contribuent à la visibilité du blues hexagonal. De nouveaux artistes comme Nico Wayne Toussaint, Vincent Bucher, Greg Slapp, qu'on connaît bien à l'harmonica, mais aussi des jeunes prometteurs qui s'inscrivent dans le style roots comme Louis Mezzasona, alors là qui est un ami à nous.
Oui, et Flo aussi. Et
voilà qu'on reçoit beaucoup. Louis Mezzasona, on l'a reçu déjà plusieurs fois à Calade, bien sûr. Donc c'est un Stéphanois, hein, je crois, il est juste à côté. Mm-hmm. Alors vraiment, Louis Mezzasona, si vous avez l'occasion, faut vraiment, c'est vraiment quelqu'un, hein, c'est quelque chose.
Hein. Oui, il a la trentaine maintenant.
Il est tout jeune, hein, il a une trentaine, hein, c'est incroyable. C'est là qu'on voit que le blues se perpétue, parce que vraiment, bon, on n'a pas que lui, on en a plusieurs. Hein,
Des
jeunes. Donc grâce à Calade qui viennent, qu'on découvre tout ça dans le studio. Voilà, donc on va écouter un morceau pour finir de Louis Mezzasona.
Qui s'appelle That Rage Inside.
Is it time now? My right. Do the bad thing. Let me decide. I'll punch the wall. I look like a good guy. But in me, there's something I hide. When people ask me if I'm good, I lie. Maybe I got too much pride. Good on bad time. I can feel the trend inside. Good on bad time. I have to fight outside. Someone else, homicide. There's nothing I haven't already tried. If I met someone die, would it make me free or go to jail? I still got that dread inside. Good on bad time.
Et ben voilà.
C'est un petit peu plus rock, mais voilà, c'est le blues aujourd'hui, le rock. Alors donc, on n'a pas parlé de Sophie Malbec, parce que bon, pour ceux, je pense qu'ici dans le coin, tout le monde, beaucoup la connaissent. Nous, on la connaît particulièrement bien, bien que depuis un an ou deux, elle a fait peut-être un petit peu moins de concerts, mais bon, c'est une Lyonnaise qui fait beaucoup de concerts blues, voilà. Je pense que je vais te laisser finir.
Par exemple, oui, si vous voulez bien.
Bah,
oui. Alors, aujourd'hui, la scène blues française donc, est vivante et diversifiée. Elle intègre donc, toutes les influences multiples. Elle attire des amateurs de tous horizons et s'appuie sur un solide réseau de festivals et de clubs. Alors, Lyon, on est un peu juste hein, au niveau des clubs. Il ne se passe pas trop de choses. Hein,
non, c'est plutôt plus au sud.
Au sud, et puis le sud-ouest aussi. Toulouse, oui. Bordeaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
et
de...
Je crois que mon ami Mono peut le dire, là-bas, la Bretagne aussi, qui est bien, il y a beaucoup de festivals.
Oui, il y a beaucoup de choses.
Ici, malheureusement.
Ouais. Ici, oui, il y a eu des clubs qui ont fermé, des clubs de jazz, entre autres. Moi, je faisais la programmation.
On en a quand même un bien qui est juste à côté de Lyon. Chez nos amis, là, dans l'Ardèche. Dans l'Ardèche.
Où ça ?
À Pélussin.
Ah bah oui, Pélussin, c'est pas l'Ardèche, et la haute, c'est la Loire.
Non, mais ce signal, c'est en Ardèche. Ah bah,
enfin, non, c'est 42. Le Old Blues Club. Le Old Blues Club. Oui, si vous avez l'occasion.
Voilà,
allez-y, parce que c'est une association donc, qui gère ça depuis plus d'une vingtaine d'années, et ils ont la particularité de faire venir donc, en day off, quand il y a des tournées d'Américains ou autres. Donc, ils prennent la journée parce que c'est sûr qu'il n'y a que 80 places, donc ils ne peuvent pas rémunérer avec des. C'est une association en fait. Mmh. Mais alors, c'est un lieu super. Et franchement, les gens sont vraiment chouettes.
50 concerts par an.
Ah oui, oui. C'est impressionnant.
Sachant que au mois de décembre, ils n'en font pas et qu'au mois d'août, ils n'en font pas. Mmh. Et malgré tout, ils font plus de 50 concerts par an.
Oui, ils arrivent à en faire 2-3 dans la semaine.
C'est
incroyable. Quand même.
Une petite association, ils font à manger et tout. Donc les gens, les artistes viennent. Enfin bref, c'est incroyable. Ils
sont Pélussin.
Pélussin, c'est pas.
C'est au-dessus de Condrieu, en fait.
C'est Condrieu, voilà, c'est l'Ardèche, l'Ardèche, la Loire, c'est la Loire. Voilà.
C'est la limite. T'as dit que c'est la Loire.
Non, mais c'est la limite. C'est parce que moi, j'ai des amis qui habitent juste à côté, ils sont dans l'Ardèche. Voilà.
Eh ben, ils sont dans la Dèche et dans l'Ardèche.
Ouais, voilà. C'est sûr qu'ils sont dans l'Ardèche. Voilà. Donc,
pour alors, j'ai pas fini de parler, du coup.
Si.
Bah non.
Non, mais
j'ai pas fini. Non. J'ai dit que le blues en France se porte bien. Beaucoup de groupes n'en ont rien à envier aux formations américaines. C'est une musique qui a amené toutes les autres.
Voilà. Voilà, là t'as fini, c'est bien.
Voilà.
Donc,
point à la ligne.
Tout ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ben, le blues se porte, on va dire même très bien, mais surtout en France. On a rencontré des musiciens qui nous ont dit, qui nous expliquent qu'en fait, ils gagnent plus d'argent en venir en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'un concert de blues aux États-Unis, ça rapporte que dalle pour eux.
Il n'y a que les tips, ce qu'ils appellent les tips, ils mettent un bocal et puis les gens mettent au chapeau, comme on dit chez nous.
C'est pour ça qu'ils aiment tous venir. Et d'ailleurs, on a des amis, notamment notre ami, comment j'oublie son nom, qui vient à la radio aussi, Neil...
À tes souhaits.
Neil Black, comment non
pas Neil Black, bah c'est Neil Black. Ah bah voilà. Oui, mais lui il est texan, bah, c'est
pas
pareil.
Américain, jusqu'à texan.
Ah oui, mais il vit à Vienne, alors bon.
Oui, mais voilà, il vit.
Ça fait
France.
Des années qu'il est.
Il y en a beaucoup comme ça, ils vivent en France en fait parce qu'ils gagnent mieux leur vie, quoi. Voilà.
Oui, par contre, il fait beaucoup de tournées en Allemagne et dans les pays de l'Est.
En Europe, voilà. Ouais. C'est l'Europe qui paye, voilà.
Et enfin, en France aussi, bien sûr.
Voilà, donc on a fait ce petit tour là, ce petit tour, au grand tour sur le blues. Évidemment, Sylvie et moi, c'est notre passion. J'espère qu'on vous l'a fait partager. Si vous avez des questions, on est à l'écoute.
L'émission à la radio, elle est quand ? Votre émission, il y a quel moment ?
Alors, on en a plusieurs. Vas-y, je te laisse.
Oui, il y a déjà Bibi Queen's Radio Show, qui est un. Bon, on est à trois, on est avec Angie aussi, la troisième. Qui a lieu une fois par mois en direct et puis qui est rediffusé le jeudi soir, c'est ça hein.
Donc elle a lieu le dimanche après-midi,
entre 14 et 16. En général, c'est en direct. Hein. Sauf si on a une impérative, ben, on l'enregistre et puis on la fait passer après. Dédé avec Angie font une émission sur les nouveautés américaines, qui dure deux heures aussi, qui est en alternance aussi.
Non, pas américaine, les nouveautés blues.
Oui, bah oui, pour moi c'était tellement impressionnant, voilà. Et puis donc moi j'en fais une tous les 15 jours aussi, donc qui s'appelle Bibi Queenie Solo & Co. Donc vous trouvez tout ça sur radio-calade.fr.
Vous avez tout en podcast.
Vous les avez en podcast, les émissions.
Y compris les blues
en France.
Y compris les deux exposés qu'on a fait. Donc la première est déjà en podcast. La deuxième va l'être dès que Mathieu nous a remis ça. Il y a pas dans quelques jours. Donc vous pouvez tout retrouver en podcast sur Calade Ma Radio.
Alors c'est vrai qu'il y en a un paquet parce que on a commencé nous en 2016 pour Bibi Queen's Radio Show, donc il y a on en est à la 80e bientôt.
Et quand on vous disait tout à l'heure qu'on a des amis comme Louis Mezzasona, c'est vrai qu'ils viennent, quand on fait l'émission, ils jouent dans le studio.
On les invite pour faire du live quand ils ont un nouveau CD et autre.
C'est hyper intéressant parce que c'est carrément vivant, quoi. C'est fabuleux.
Bah, la prochaine, on aura comme invité Yano Barfoutiano, qui est un Australien d'origine et qui, en fait, n'a jamais de chaussures. Il marche pieds nus tout le temps, même l'hiver.
Mountain Man, je ne sais pas si vous connaissez les Mountain Man.
En fait, ils faisaient du groupe Mountain Man. C'est un duo qui sont en train de reformer. En fait, le deuxième, c'est Mr. Matt, bon, qui est arrivé finaliste à The Voice il y a trois ans, qui a une voix extraordinaire. Et c'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui chantait du blues. Qu'il soit. Mais il a été pris par Vianney, je crois, c'est ça qu'il a un peu.
Alors, le Mountain Man, c'est pareil, c'est une énergie, ça tous les deux, c'est incroyable. Ils sont incroyables. Quoi. Donc, je me souviens, on les a vus, nous, il y a moins 20 ans, plus, peut-être la première, vous ne connaissez pas, hein, bien sûr. On se dit, mais c'est quoi, c'était fabuleux.
Les fous furieux.
À l'époque. Puis maintenant, bon, il se trouve que Yano, on le connaît particulièrement bien, c'est un ami. Je pense que là on va passer parce que en plus non seulement il joue bien mais il a c'est un gars il est plein d'histoires, il rigole tout le temps et enfin,
ouais, puis il a son propre groupe autrement, hein, un groupe de blues, ils sont à trois et il fait des...
Où donc, vous les avez vus? Oui, voilà, c'est ça, oui, ils sont passés à l'est de Lyon. Ouais, c'est ça, ouais. Pas loin de Bourgoin, un truc comme ça. Oui, je sais, oui. On devait y aller, moi, j'avais vu, ouais. Et donc, Yano, c'est le président du Grézy Blues aussi.
Enfin, le président des stages. Hein,
des stages, ouais, du Grézy Blues cette année, donc il sera un peu moins parce que vu que ça marche très très bien leur nouveau duo qu'ils ont recréé là. Donc vous avez trouvé, c'est très bien, hein. Non, mais c'est ça, hein, c'est vraiment. Ouais, c'est l'énergie qu'ils ont tous les deux. Puis Yano, la particularité, effectivement, on l'a reçu, moi, la première fois qu'on l'a reçu à Calade, c'était en mois de décembre, comme d'habitude, il est arrivé pieds nus. Hein. Et tout le temps pieds nus.
Bah oui, c'est une habitude. Bah, c'est pour ça qu'on l'appelle Barefoot Yano.
Mais
bah
voilà. Oui. Mais c'est des gens extraordinaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le blues se porte très bien, quoi, voilà. C'est là que je...
Tant mieux pour nous.
Hein. Tant mieux pour les passionnés, voilà, quoi. C'est dommage qu'on n'a pas plus de monde aujourd'hui parce que bon, voilà.
Vous avez d'autres questions, non, éventuellement?
Est-ce que vous connaissez un jeune qui était passé au classique rock café à
Villefranche
qui s'appelle Flo Bauer?
Bah oui, on en a parlé tout à l'heure.
Moi, j'ai pas entendu.
Ah si, en même temps que Louis. Oui. Bah, il a reformé un groupe là, qui s'appelle Circle of Mode, qui est. Bah, ils étaient passés à Satonnet l'année dernière. Mais, ah oui, oui. Ouais. Ah oui, je les ai même interviewés en plus. Ah, mais il est super, Flo. Bah, au Classic Rock Café, en plus, chaque fois, il m'invite à faire le bœuf, ouais. Ah oui, il était vraiment chouette. Hein. Mais il est jeune aussi. Bah, c'est pareil, il a fait aussi The Voice, mais il avait 16 ans quand il l'a fait. Je crois qu'il est arrivé dans la quatrième machine. Ouais. Mais c'est vrai que The Voice a quand même une particularité, c'est d'arriver à mettre en avant certains jeunes. Ouais, quoi. Ouais. Mais bon, c'est un peu aussi des fois un peu tiré, oui, capillotracté, on va dire.
Voilà.
Voilà, bah écoutez, merci de votre présence.
Ben, merci.
J'espère
beaucoup,
qu'on vous a...
Bon, merci vraiment beaucoup.
Et puis voilà, keep the blues alive.
Voilà, 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 c'est ça.
Calade. Ma radio.